Nous accueillons tout de suite Sabine. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci, bonsoir aussi aux gens qui nous écoutent.
Qu'est-ce qui vous arrive Sabine?
Moi en fait, ce qui a motivé mon appel en début de semaine, enfin mon intervention, c'est... Alors j'ai très très peur d'être dans l'émotion parce que ça touche à ce que j'ai de plus cher, mon fils, enfin un de mes enfants. C'est très certainement le placement de mon fils, de mon adolescent, qui a 13 ans et demi, suite à l'alerte d'une voisine pendant le confinement, qui a fait un signalement à Enfance en danger. Alors, c'est parfait, c'est bien quand c'est justifié et qu'on s'inquiète de savoir si les interrogations qu'on a ou les inquiétudes qu'on peut avoir concernant ses voisins, son entourage proche, est vraiment en danger. Moi, en fait, j'ai une voisine qui a appelé Enfance en danger. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation, avec une situation de placement très certainement fin août. Je vais vous expliquer un petit peu ma situation.
Oui,
je suis une maman avec une fratrie de deux garçons, un grand de 23 ans qui est parti du foyer et un plus petit qui a 13 ans et demi. De deux pères différents. Mon dernier, je suis tombée enceinte en fait avec un homme pervers narcissique et je suis partie à la naissance de mon fils. Je ne savais pas que j'étais enceinte et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fait le choix de rester avec cet homme-là, mais j'avais vu qu'il avait une problématique psychologique, donc j'avais décidé de le quitter et finalement je suis revenue avec lui.
D'accord.
Quand j'ai découvert ma grossesse, la question de l'avortement s'est aussi posée vers 5 mois et demi d'aller en Hollande parce que je subissais de la violence physique, des coups de pied dans un camping, de la violence verbale.
Oui, d'accord.
Voilà. Mon fils, il est né de cette union et à la naissance de mon fils, j'ai fait le choix de quitter cet homme et de partir. Et il y a eu un point de médiation, enfin un point soleil, ce qu'on appelle nous dans notre département, pour qu'il puisse voir son fils. Mais pendant les 3 premières années, il a fait le choix de partir dans le sud de la France et de refaire sa vie professionnelle, de monter sa société et sa vie amoureuse. Quelque part, je ne sais pas trop jusqu'où je dois mettre le cadre, mais bon, voilà, toujours est-il que aujourd'hui, mon fils a 13 ans et demi, je l'élève seule, on m'a toujours dit de faire... Donc, mon fils, aujourd'hui, il a une problématique, enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est
non,
vrai
non,
que...
Pour le moment, c'est...
Ça va, c'est clair ?
C'est très clair. Si jamais vous digressez, rassurez-vous, je suis là pour remettre... De toute façon, après, je vais tout reprendre.
Donc, en fait, depuis 13 ans et demi, je me suis toujours dit que si je mettais mon fils au monde, j'aurais une relation compliquée avec le papa qui est pervers narcissique, qui est avilissant dans la relation et qui le pratique toujours aujourd'hui au travers des mails, du peu d'échanges qu'on peut avoir. Voilà. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un aussi pendant ces 13 ans et demi, un homme dont je me suis séparée il y a 3-4 ans, mais qui a été un papa de cœur pour mon fils, hyper investi dans la relation.
D'accord.
Et ça a été hyper important dans la vie de mon fils. Voilà. Je l'ai quitté il y a 3 ans et demi. Ça concordait en fait avec le passage pour mon fils au collège et déménager. Enfin, ça a été un gros chamboulement dans sa vie pour mon fils.
Oui, mais même pour vous.
Voilà. Voilà. Oui. Et à la même période, c'est vrai que jusqu'au primaire, on n'avait pas détecté... Enfin, dans le comportement, il y avait des troubles de l'agitation pour mon fils, mais rien de plus. J'avais alerté le médecin traitant, mais le médecin traitant me disait « Non, c'est normal, il ne tient pas en place, mais rien de plus. » Et en fait, en sixième, il a été détecté avec un trouble de l'hyperactivité et de l'attention, TDAH,
oui.
Mais surtout en lien avec une situation très conflictuelle des parents. Mais du temps où j'ai été en couple, mon ex-conjoint me laissait relativement tranquille, les insultes ne fusaient pas, mais bon voilà, ça restait correct dans la relation, on va dire, entre les parents. À côté de ça, pendant les 13 ans, donc mon ex-conjoint a refait sa vie, il a eu une autre petite fille, il a deux enfants très grands, 25, 31 ans, le mien qui a 13 ans et demi et une dernière qui a 9 ans. Il a refait sa vie, voilà.
Donc il en a 5 au total ?
Il en a 4.
4 ?
Deux grands dans le nord de la France.
Oui.
le mien, mon fils,
d'accord,
et une petite en plus bas,
okay,
qui a 9 ans, donc 4 enfants, deux, avec 3 femmes différentes, voilà, pour situer un peu le cadre. Le fait qu'il soit loin, c'est, moi j'y trouvais mon compte, je trouvais ça bien quelque part. Voilà, donc il avait une garde pour son fils, notamment pendant les vacances scolaires, mais très vite il a exercé son droit de façon très irrégulière.
Mmh.
Et pas du tout disponible. Il déléguait le fait de s'occuper de son fils à sa compagne, la prise en charge de mon fils. Pas du tout impliqué dans le quotidien, ni dans l'éducation, ou dans les soins de son fils, ou dans les hospitalisations. Je pouvais l'appeler, mais bon. Je l'ai toujours retenu au courant de tout, mais il s'est jamais impliqué, il s'est jamais senti concerné. Voilà, et voilà, en gros, pour donner le cadre, ça a toujours été très compliqué. Enfin, mon fils voyageait en train, souvent en accompagnement avec Junior et compagnie. Voilà, et donc il y a 3 ans et demi, je me suis séparée. Donc là, ça s'est dégradé pour mon fils et aussi avec mon ex-conjoint qui a repris le chemin des insultes, d'un comportement avilissant à mon égard. J'en tenais pas compte dans les échanges par mail. Voilà. Et moi, je me suis sentie, il y a 3 ans, en difficulté avec mon fils. Mon fils aîné était encore à la maison, mais là, il a quitté le foyer. Je me suis retrouvée seule avec mon fils, en difficulté. Il a intégré le collège, il a commencé à avoir des difficultés de comportement, à pousser des cris en classe, à ne pas tenir en place. Enfin, il avait besoin d'attirer l'attention, il ne tenait pas en place. Intellectuellement, il percute, il est intelligent, mais il n'est pas en place. Il avait besoin d'attirer l'attention sur lui, de perturber le cours, de... Voilà.
D'accord.
Donc
ça vous a été
signalé. Oui, donc c'est là qu'en fait il a été vu par des spécialistes, neuropsychologues, neuropsychiatres. Il y a un suivi qui a été mis en place dans un CMP avec un pédopsychiatre au départ, ensuite un psychologue l'année d'après. Donc ça c'était 2017-2018. Voilà. Et suite à ça, un traitement par Ritaline, un stupéfiant. Voilà, une camisole chimique pour essayer de le maintenir, de tenir, qui a plus ou moins marché, qui marche plus ou moins, on va dire, mais qui a de gros effets secondaires, qui ça rend insomniaque.
Ah oui.
Ça rend insomniaque, en tout cas pour mon fils. Ça peut donner des agoraphobies. Je suis infirmière, hein, juste pour aussi situer un peu les choses. Agoraphobe, et puis oui, c'est une camisole chimique, ça le fracasse en fait, ça l'éteint après la prise du médicament pendant 3-4 heures. Et bon, c'est compliqué, c'est pas des médicaments anodins qu'on a quand même en pharmacie avec la délivrance. Enfin, c'est une délivrance très particulière en pharmacie centrale. Voilà, c'est un peu pour donner le cadre tout ça. Et donc, depuis 3 ans, Thomas a un comportement compliqué à l'école. Il a fait 3 collèges, pour vous dire. La première année, il a fugué, donc il y a eu un conseil disciplinaire, il répondait au professeur. Bon, la Ritaline n'avait pas encore été mise en place. Donc, il a été décidé d'un changement de collège. Il a été affecté dans un autre collège la deuxième année, où ça a toujours été compliqué parce que les troubles du comportement étaient toujours présents, malgré un suivi au CMP. Par un pédopsychiatre, mais un suivi trop irrégulier à mon goût, avec la constitution d'un dossier MDPH. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est un dossier pour les enfants, enfin, un enfant handicapé.
Oui.
Voilà, avec la mise en place quelque chose qui a été ordonné, un CESADITEP, donc psychologue éducateur sur les temps scolaires. Mais mon fils est en attente depuis 2 ans, 2 ans et demi, parce que trop d'enfants dans ce cas. Donc là, j'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler quand j'entends ça, parce que mon fils aujourd'hui va sur ses 14 ans. Et je pense que, enfin là, tous les ans, je monte un dossier, je crie, j'alerte en disant que c'est une situation d'urgence parce que la situation se dégrade. Moi, il faut savoir aussi que depuis 2 ans et demi, 3 ans, je suis dans une instabilité professionnelle. J'ai perdu, pour accompagner et poursuivre mieux mon fils, j'ai dû, et au niveau des rendez-vous médicaux, j'ai été licenciée d'un poste. Enfin, dans un premier temps aussi, Thomas a été radié. Enfin, mon fils a été radié de la cantine. Il a été mis aussi, comme il perturbait beaucoup l'enseignement, il a été aussi stigmatisé. Donc, on l'a scolarisé à mi-temps. Voilà, donc il finissait pas. Donc, un peu de décrochage scolaire. L'année dernière, il a subi du harcèlement scolaire par 2 enfants dans un collège un peu miteux et il a fallu que je porte plainte. Il y a enfin une enquête qui a été menée et on a découvert qu'il y a des enfants qui lui faisait subir du chantage et qui lui demandait de l'argent, qui voulait le racketter, qui l'ont racketté sur des vêtements. Donc, il a rechangé de collège. Enfin, au début, on ne prenait pas au sérieux au niveau du principal et au niveau de la directrice du collège. Donc, il y a eu une enquête de fait. On s'est aperçu qu'il y avait deux enfants tchétchènes dans une autre classe qui l'attendaient, qui voulaient se battre avec lui. Donc, il était infect à la maison. Enfin, la relation familiale était compliquée à la maison. Il me disait qu'il ne voulait pas y aller. J'avais du mal à le croire. Je pensais que... qui voulait pas aller à l'école tout simplement, et en fait il revenait avec des bleus, il me disait apprends-moi à me battre maman.
Ah oui.
Voilà, mais on le prenait pas au sérieux à l'école, et en fait quand j'étais portée plainte, la directrice de l'école a mené enfin une enquête, et là on a décidé de le réorienter sur un autre collège à la rentrée là dernière.
Oui.
Donc en septembre 2019-2020, rechangement de collège pour la troisième fois. Donc c'est vrai que pour les repères
pas évident,
les
tout
amis,
ça, hein.
c'est pas aidant.
Non.
C'est pas aidant. Voilà, entre-temps, moi j'avais sollicité, dès le premier collège, pour sa rentrée en sixième, j'avais sollicité l'assistante sociale du collège, qui avait mis en place, qui avait demandé l'intervention d'une éducatrice, et je m'en mords les doigts aujourd'hui parce que je trouve que bon, ça nous a rien apporté à part des rendez-vous pour aller boire des chocolats une fois et demie tous les mois. Et rien de plus, on discute un peu avec l'enfant, il se passe rien. Moi, je pensais que c'était vraiment des aides plus approfondies, plus aidantes, enfin plus soutenues. Voilà, donc il y a eu une première mise en place d'une aide, après un organisme qui a fait une étude chez le papa et chez moi. Mmh. Et là, il est ressorti en février 2019. Le juge, donc, il est ressorti que le papa était vraiment, enfin, guère disponible pour son fils, qu'il déléguait tout à sa compagne, enfin, je l'ai sous les yeux, le jugement, qu'il n'était pas du tout impliqué, enfin, ce que je vous ai dit, en fait,
au
début de l'émission.
Voilà.
Voilà. Et moi, en parallèle, j'avais des. Au vu de ma situation précaire pour accompagner Thomas, j'ai repris le chemin de l'intérim. Enfin, j'ai fait beaucoup de blocs opératoires, beaucoup de services de réanimation, mais c'était plus possible, c'était plus compatible de tout concilier. Donc, je me suis réorientée vers de la santé au travail, mais en intérim ou en poste. Mais j'ai aussi été licenciée parce que l'année dernière, j'ai demandé un report d'une formation. Donc, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de perturbations. J'ai été licenciée parce que j'ai demandé un report de ma formation. Je crois que je ne regrette pas du tout aujourd'hui pour accompagner au mieux mon fils. Je devais partir en fait à Lille pour une licence en santé au travail une semaine par mois. Donc j'avais tout programmé, tout organisé pour la prise en charge de Thomas avec une étudiante à la maison la semaine où je partirais. Mais c'était juste pas possible entre les rendez-vous de psychologues, de pédopsychiatres, d'éducateurs, les commissions scolaires à l'école.
Oui.
Donc voilà, j'ai fait le choix, donc j'ai demandé un report de ma licence, et en fait, en 15 jours, alors que je suis quand même dans le soin, c'est ça le paradoxe, j'ai été licenciée comme un chien, alors que je faisais mon travail, il n'y a pas eu de deux poids deux mesures, j'ai été licenciée très rapidement. Voilà, donc j'ai retrouvé du travail en intérim derrière, mission qui s'est terminée il y a peu de temps, mais bon, voilà. J'ai saisi aussi en parallèle, donc en 2018, j'avais des soucis financiers, j'ai demandé à recalculer la pension alimentaire, j'avais d'abord demandé une médiation parentale avec le papa, il a refusé bien évidemment, puisque de toute façon il n'est jamais dans la conciliation et il refuse tout contact avec moi, enfin, ça devait se faire par Skype parce qu'il habite loin, au vu de la distance. Et donc, il a refusé. Donc, finalement, on s'est retrouvé. J'ai fait une demande auprès du JAF, le juge des affaires familiales.
Ouais.
Une première audience en avril où il a demandé forcément un report. Donc, ça a repoussé l'échéance au 1er juillet. Et là, on avait fait un accord à l'amiable d'une pension alimentaire. Et là, de lui-même, de son propre chef, il a décidé de me mettre encore plus dans la galère, de baisser la pension alimentaire à 110 euros, alors qu'il me donnait 250 euros. Enfin, on avait décidé d'un accord à l'amiable. Bon, bref. Et là... moi, j'ai saisi le juge pour une augmentation de pension alimentaire, mais ce n'était pas mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, c'était remettre du cadre avec ce papa pour lui rappeler... Moi, on m'a toujours dit de faire le pédopsychiatre, les psychologues qui suivent Thomas. Et moi aussi, je suis suivie par quelqu'un. On m'a toujours dit, en fait, comme le papa est défaillant depuis toujours, hyper absent, hyper démissionnaire, de faire le deuil d'une parentalité puisqu'il n'est pas là pour les hospitalisations, puisqu'il n'a jamais appelé un collège quand ça se passe mal, ou il ne m'a jamais contacté non plus pour qu'on puisse ensemble décider de certaines décisions. Je prends les décisions seule, donc on m'a toujours dit faire le deuil d'une parentalité. Et en juillet 2019, on passe devant le juge des affaires familiales où là je demande à ce que je sois prévenue pour les vacances, pas la veille pour le lendemain qu'il ne le prend plus parce qu'il se désiste. voilà, son gros jeu, c'était de se décider au dernier moment, de ne pas prendre Thomas la veille pour le lendemain. Dans l'organisation, c'est compliqué. Je suis en rupture familiale. Voilà, donc je devais m'organiser au pied levé pour faire garder Thomas. Voilà, entre autres, et le JAF a suivi.
Ouais.
Rien n'est simple. Et le JAF sur cette audience a suivi le juge des enfants de février sur le jugement de février 2019. Donc sur le délibéré de août 2019, il suit le juge des enfants où il dit qu'en fait, il est en vain d'accorder au père un droit qu'il n'exerce pas. Et le père demande à limiter son droit de visite à 15 jours l'été et très peu sur les périodes de l'année. Donc voilà, donc les deux jugements vont dans ce sens-là en 2019. Ça, c'est pour poser le cadre. Voilà, j'ai fini de poser le cadre, on va dire. Et finalement, la conclusion, c'est que depuis août 2019, monsieur n'a pas pris son fils depuis un an du tout. Alors, il a prétexté les grèves de train puisqu'il habite loin. Il a prétexté des problèmes de dos. Il a prétexté le confinement, forcément, mais il avait le droit de venir chercher son fils. Hein. Les papas ou les mamans ont le droit d'exercer leur droit de visite. Ils avaient le droit pendant le confinement. Voilà. Et Thomas avait des soucis de téléphone. Sa carte, enfin, il s'est fait voler son téléphone et son père n'a pas contacté du tout son fils. Il ne voulait pas passer par mon téléphone, donc il a eu aucun contact avec son fils. C'est moi qui ai demandé à mon fils au mois de juin d'appeler son papa. Donc zéro contact. Et là, donc, on a eu une mesure éducative, donc aussi suite au juge. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais suite au juge des enfants en février 2019, il y a une mesure éducative qui a été ordonnée par le juge. Pour m'aider, parce que moi, je me sentais un peu dépassée avec un enfant rebelle, un enfant qui ne supporte pas les frustrations, enfin, une situation complexe un peu à la maison, des difficultés dans l'autorité. Voilà, donc une mesure éducative, une éducatrice qui prend contact avec moi. Enfin, la mesure aurait dû durer 18 mois, elle a duré un an, de août l'année dernière à là, aujourd'hui. Voilà, donc une éducatrice qu'on a vue, que Thomas a vue tous les un mois et demi à peu près, et moi, 4-5 fois à tout casser. Voilà, et donc pendant le confinement.
Pendant le confinement, donc cette plainte.
Pendant le confinement, une plainte qui arrive d'une voisine qui appelle Enfance en danger, qui est au deuxième, c'est pas ma voisine directe, et voilà, et qui alerte le pôle ouvert, donc. Et qui donc, je ne connais pas le contenu exact, mais on m'a dit que j'exerçais de la violence sur mon fils. Un soir, c'est vrai qu'il y a eu une altercation, mais elle a dit, je crois, hein, dans les termes qu'on m'a nommés, fin mai, j'ai été entendue, en fait, comme un cas social, comme une misérable, là, comme quoi je tapais mon fils régulièrement, comme quoi il subissait de la violence verbale. Voilà, Thomas a été entendu. Moi, j'ai été extrêmement choquée parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe, ce n'est pas la réalité. Là, je vous en parle de façon très posée, mais voilà, ça a été très compliqué, très dur. J'ai dû me justifier sur ça. J'ai reconnu un soir l'avoir insulté, avoir pété les plombs parce qu'il est en quatrième, parce qu'on était assommé de leçons, parce que moi, infirmière, j'ai dû retravailler très, très vite. J'ai pris 15 jours dû à la fermeture des établissements scolaires, mais il a fallu que je reprenne très, très vite le travail. Donc beaucoup de fatigue, je rentrais le soir, mon petit garçon, mon petit garçon, c'est un terme qui n'est pas approprié, me dit-on, ce n'est pas mon petit garçon, mais j'ai quand même 30 ans d'écart avec lui, mais ça ne plaît pas au directeur du pôle ouvert, il me dit que ce n'est pas mon petit garçon, il faut que je dise mon garçon, voilà, on me reprend régulièrement sur ça, donc ça me choque aussi. Donc là, il y a eu une plainte et en fait, j'ai été entendue, je pensais que c'était classé, Thomas aussi a été entendu sur l'affaire en disant que... Il m'avait poussé à bout, que... Enfin, moi, je me suis excusée auprès de mon fils, bien évidemment, mais rien de choquant pour lui. Enfin, il s'en souvient à peine. Voilà, vraiment. Enfin, et même mes voisins, là, récemment, je leur ai demandé s'ils avaient été enquêtés. Mon médecin traitant, elle est au courant de ce qui se passe à la maison. Elle sait que c'est complexe dans la relation avec mon fils, que ce n'est pas simple, mais il y a beaucoup d'amour. Je suis maman aimante, très impliquée. Enfin, on fait beaucoup de sport. Ouais. On fait beaucoup de sport aussi ensemble dans les activités. On fait du karting, on va à la piscine, on court, on fait du sport. Enfin, j'ai 48 ans et Thomas en a 13, mais je reste une maman dynamique. Malgré une problématique santé de mon côté, je reste hyper à l'écoute de mon fils, hyper... mon médecin, elle pourrait en témoigner aussi.
Ça a l'air d'être...
À l'école,
tout est centré sur votre fils, manifestement.
Oui. Je ne vous cache pas que c'est vrai que ma vie aujourd'hui, c'est Thomas. C'est aussi ma raison d'être parce que l'intérêt, c'est Thomas. Je veux qu'il aille mieux. Je veux vraiment qu'il sorte de ce... Il a une angoisse qui est... Enfin, l'hyperactivité, le trouble de l'hyperactivité, c'est, c'est chez les enfants qui sont anxieux.
Oui.
Il le traduit par « Maman, si t'arrive quelque chose demain, parce que j'ai eu des problèmes de santé », il l'a vécu, il l'a partagé jusqu'à encore il y a 3-4 ans. Et voilà, et il a des angoisses, il me dit « De toute façon, maman, il n'y a que toi dans ma vie, si demain il t'arrive quelque chose », il a beaucoup conscience de ça. Il oui. a des angoisses de mort terribles, des angoisses... Voilà, et donc en fait, voilà. Et juste une chose aussi, dans ce suivi éducatif où moi je me suis toujours sentie en fait disqualifiée en tant que maman, toujours jugée, voilà, sur plein de choses, sur plein de faits. Et un fait entre autres où en fait Thomas, un soir, on reçoit l'éducatrice tard, en début d'hiver. Et Thomas, il était tard, il était 18h30, 19h, il était fatigué de sa journée, on était en fin de semaine, c'était un jeudi soir, il a eu le. Il a posé sa tête sur mes genoux de fatigue et il a dit « Maman, quand est-ce qu'elle parle l'éducatrice ?» Enfin, voilà, elle était présente, elle était là. Il pose sa tête sur mes genoux et voilà, et c'est tout, rien de plus. Et moi, sur le moment, ça ne m'a pas interpellée plus que ça. Et un mois, en début d'année, là, de cette année, j'ai été convoquée au pôle ouvert pour voir la psychologue pour une suspicion d'inceste. Où on m'a dit voilà, on trouve que je me suis sentie mal à l'aise. Je savais pas pourquoi j'étais convoquée. Hein. Donc je suis vraiment, j'ai mis le doigt dans quelque chose. J'ai fait appel à des éducateurs et en fait je me dis mais une fois qu'on met le doigt là-dedans, c'est compliqué derrière. Enfin moi je me sens pas aidée, je me sens disqualifiée, je me sens jugée de toutes parts. On me fait la morale comme si j'étais, je sais pas, on a l'impression qu'il y a jamais rien qui va ou quand j'ouvre la bouche, il faut faire très attention à ce que je dis. Quand je dis mon petit garçon, eh ben non, c'est un adolescent. Oui, il grandit Thomas, mais ça restera toujours mon petit garçon. C'est le petit dernier. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Donc, je fais aujourd'hui très attention à mon vocabulaire, en tout cas en leur présence. Et donc, en début d'année, j'ai été aidée par une psychologue où on m'a dit, oui. Voilà, on vous convoque aujourd'hui parce que vous avez eu une attitude avec votre fils. Votre fils a posé sa tête sur vos genoux et ça m'a mis très mal à l'aise. Et je voulais vous en faire part et je voulais que vous soyez vu par la psychologue du service. Ah. On a débattu pendant une heure. Je ne sais pas ce qu'il en est ressorti. Je ne connais pas le contenu de. Mais voilà, on a suspecté une relation malsaine avec mon fils. Mon fils me masse les cervicales parce que des fois j'ai mal au dos suite à une problématique santé qui dure depuis 10 ans, mais qui va beaucoup mieux. Ça dérange. Donc aujourd'hui, mon fils ne me masse plus. Je vais chez le kiné. Voilà, j'ai fait le choix d'aller chez le kiné parce qu'a priori c'est perturbant. Mais dans la médecine asiatique, enfin, je vais chez l'acupuncteur et dans la médecine asiatique, les enfants s'occupent des parents. Enfin. Il n'y a en aucun cas de rapport incestueux. Mon fils a une chambre, les rapports sont sains. Enfin, il n'y a rien de. Enfin, je suis extrêmement choquée, extrêmement. Je me suis pas sentie accompagnée, je me suis pas sentie aidée.
Mais avec tout ce que vous vivez, c'est pas évident.
Et pendant le confinement, vraiment pendant le confinement, c'est vrai que ça a été dur avec Thomas, ça a été complexe. L'enfermement encore plus chez un enfant hyperactif. Les troubles ont été majorés, il s'est mis à crier, il s'est mis à faire le fou, donc c'est vrai que moi ça m'est arrivé de monter le son pour le calmer ou de partir dans ma voiture une demi-heure pour faire redescendre les pressions, la tension.
Voilà, tout à fait, ouais, pour respirer un petit peu,
voilà.
Changer d'air.
Donc j'avais averti la psychologue, j'avais aussi averti l'éducatrice, et en fait tout ça, ça m'a desservi je pense dans le rapport. Parce que je vais en arriver à l'entretien de lundi 20, là, qui vient de se produire. Voilà, j'ai aussi fait appel à des voisins. Alors, j'ai une petite voisine qui est toute mignonne, qui est venue parler régulièrement à Thomas, au travers de la porte. Mais j'ai aussi des amis qui savaient que j'étais... Enfin, des amis, des voisins, que je pensais amis, hein, mais l'aide n'est pas forcément venue des gens que j'attendais. Et j'attends... Enfin, voilà, je trouve que le confinement, il y en a pour qui... Il y a eu un élan de solidarité. Moi, je n'ai pas senti ça. J'ai senti un individualisme, un égoïsme. On n'a pas ouvert sa porte. On m'a laissée seule dans ma voiture alors que je savais qu'il y en a qui savaient que j'étais dans ma voiture. Donc moi, je crie aussi... En fait, quand on n'est pas dans la norme, ça dérange terriblement. Enfin, je n'ai pas eu beaucoup de mains tendues. Mon cri d'alarme ce soir, c'est aussi ça. Les gens sont dans leur petit confort de vie. On ne m'a pas proposé un soir d'aller boire un café. Enfin, moi, j'ai une amie qui habite juste en face. Et je l'ai emmenée chez SOS Médecin parce qu'elle a eu des crises d'angoisse pendant le confinement. Mmh. Mais par contre, à l'inverse, j'ai pas eu la main tendue, attendue. Enfin, c'est qu'elle se tire. Mmh. Un chacun pour soi. Moi, je suis infirmière, je suis empathique. Enfin, on m'appelle, je suis là, il n'y a pas de souci. Et je suis extrêmement choquée aussi par ça. Et donc là, tout ça pour en revenir à la fin de la mesure éducative qui prend fin là avec un rapport et un jugement fin août. Mmh. La semaine dernière, je reçois un courrier comme quoi je suis convoquée. pour débriefer sur la fin de la mesure éducative. Et là, je suis tombée de ma chaise. Hein, on me demande comment ça se passe. Donc, la relation est plus apaisée avec mon fils. Il avait repris le chemin de l'école au mois de juin.
Oui.
Ça redonne du cadre aussi. C'est vrai que c'est compliqué l'école parce qu'il fait toujours l'imbécile, mais ils étaient moins nombreux, donc ça a été plus facile.
Mm-hmm.
Ceci dit, il a toujours un comportement perturbateur vis-à-vis de ses petits copains, vis-à-vis des professeurs. Et j'entends pour les enseignants, c'est très compliqué d'avoir un enfant qui n'est pas dans le cadre, qui est hors norme.
Bon, Sabine, après, voilà. J'ai plein de questions à vous poser, hein, parce que là,
je me doute.
Mais oui, non, mais ça vous fait du bien. Je vous ai laissé vous exprimer. Ouais. C'est normal. Et on est là pour ça. Après, j'aurai plein de questions à vous poser. Donc,
juste pour vous dire que on me demande comment ça se passe. Donc, la relation, bah voilà, je leur dis que ça va mieux, c'est plus apaisé. Mon fils est parti avec un petit copain en vacances, histoire de mettre un peu de distanciation et qu'il se fasse des souvenirs de vacances parce que moi, je suis en recherche d'emploi et j'ai pas les moyens financiers là de partir. Voilà, donc c'est vrai que Thomas, je vis beaucoup pour lui parce que j'ai envie qu'il aille mieux, parce qu'il a un mal-être, qui est là, parce qu'il y a un papa qui est absent et. C'est compliqué pour lui parce qu'on est hyper isolé, on n'a pas de structure familiale, pas de grands-parents. Enfin bon, voilà.
Alors, Sabine, et en vous fait, entendez la petite musique là ? Là, ça veut dire qu'on va juste faire une toute petite pause. Voilà,
d'accord,
bravo.
Ça marche.
On se retrouve juste après, d'accord ?
Mais, ok,
parce que j'aurai plein de questions de toute façon à vous poser. Et on est vraiment de tout cœur avec vous, hein, franchement.
Okay.
Bon, à tout de suite.
À tout de suite.
Et minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite les actualités avec Yasmine Akatou.
Et de 3 pour le PSG, les Parisiens remportent la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. Le PSG a déjà raflé le trophée des champions et le championnat. Et le match s'est joué dans un stade quasi désert. 5000 supporters, la jauge maximale autorisée. Les Parisiens étaient peut-être en manque de soutien. Julien Froment, vous êtes dans les tribunes du Stade de France pour Europe 1. Et on peut dire que le match a été compliqué pour le PSG.
Oui, victoire dans la douleur pour le Paris Saint-Germain. Succès 1-0 dans cette finale de Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne grâce à un but signé Neymar à la 14e minute de jeu. Mais de cette finale, on retiendra surtout deux faits. L'expulsion du capitaine des Verts, Loïc Perrin, c'était son dernier match sous le maillot de l'AS Saint-Etienne. Et surtout, son expulsion qui est consécutive à une faute sur Kylian Mbappé qui a dû sortir sur blessure et qui a rejoint ensuite ses partenaires avec des béquilles inquiétudes pour l'international français, d'autant plus que le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine et dans 3 semaines surtout la Ligue des Champions, son quart de finale face à l'Atalanta Bergame.
Julien Froment depuis le Stade de France pour Europe 1. La deuxième vague est bien là en France. 1062 malades de plus en 24 heures, 10 morts, 123 personnes hospitalisées depuis hier. C'est le dernier bilan de la Direction générale de la Santé. Nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin du confinement, regrette la DGS. 10 personnes sont donc décédées et au total plus de 30 000 malades sont morts du Covid-19 en France. Fermeture des discothèques et bars de nuit en Catalogne, annonce du gouvernement en catalan ce soir. Le nord-est de l'Espagne fait face à un regain de malades du coronavirus. D'ailleurs, le Premier ministre Jean Castex recommande aux Français d'éviter tout déplacement en Catalogne. Et Jean Castex qui s'est rendu à l'aéroport de Roissy, le ministre a dévoilé les mesures prises dans l'après-midi en Conseil de défense. Parmi l'arsenal de protection pour lutter contre le Covid, test obligatoire pour toutes les personnes rapatriées de 16 pays, des pays où le virus circule très activement, Claudia Bertram.
Oui, des tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de 16 pays, parmi lesquels les États-Unis et l'Algérie. Le Maroc ne figure pas à ce stade dans la liste, mais c'est en discussion, indique Matignon. Les passagers devront disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus, a expliqué Jean Castex, qui annonce aussi une généralisation des tests à l'arrivée.
Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que donc l'accès aux tests est difficile. En conséquence de quoi, nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée.
Le dispositif sera totalement opérationnel au plus tard le 1er août et sera appliqué dans tous les aéroports français. Pour vous donner une idée, ici à Roissy, 3000 personnes seront testées par jour. Le Premier ministre a précisé que pour ces 16 pays, la frontière est actuellement fermée. Cela concerne donc des Français qui résident dans ces pays ou des citoyens de ces pays qui ont une résidence en France. Les passagers testés positifs seront placés en quatorzaine. Des dispositifs similaires seront mis en place dans les ports, a indiqué Jean Castex, qui a au passage recommandé aux Français d'éviter de se rendre en Catalogne.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron confie à l'historien Benjamin Stora une mission sur la guerre d'Algérie. Benjamin Stora est le spécialiste de la guerre de 54-62. Le but, faire un état des lieux du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation. Dimanche, l'Algérie chargeait le directeur du Centre des archives de mener un travail de vérité. Pas de carnaval à Sao Paulo, au Brésil. Le maire de la ville annonce le report sinédié du défilé des écoles de samba. Face à la pandémie du coronavirus, Rio de Janeiro réfléchit elle aussi à cette option. Le carnaval devait avoir lieu en février prochain. La date du report n'a pas encore été dévoilée, mais les mois de juin ou juillet 2021 seraient une possibilité. Le Machu Picchu fête son anniversaire seul et sans touriste. La citadelle Inca au Pérou fait aujourd'hui sa découverte il y a 109 ans. Le site est fermé depuis mars, le 11 mars. Un mot sur votre météo pour demain avec vous Marlène Duré. Et si j'en crois vos cartes Marlène, il faudra ressortir les parapluies sur la majeure partie du pays.
Et oui Yasmina, beaucoup de nuages arrivent de l'océan et annoncent l'arrivée d'une perturbation pluvieuse pour demain samedi, en arrosant au passage la Bretagne et le littoral normand avant de s'enfoncer plus franchement dans l'intérieur des départements côtiers en seconde partie d'après-midi. De bonnes pluies pouvant devenir orageuses d'ailleurs vers le Cotentin. Et puis cette perturbation active va continuer à traverser le pays en direction du Grand Est dans la nuit de samedi à dimanche et on attend de bons cumuls au nord de la Seine. Pas de pluie mais un ciel changeant en remontant du bassin d'Arcachon vers la région centre et le quart nord-est. Par exemple à Bordeaux, les éclaircies s'élargiront au fil des heures alors que du côté de la Bourgogne, ce sera le contraire. On se réveillera sous un beau soleil et puis ça va se couvrir gentiment. Et pour terminer, les régions méridionales, beau, calme. Les températures minimales afficheront 12 à 17 degrés en général avec des pointes à plus de 20 degrés en bord de Méditerranée. Les maxis évolueront peu par rapport à aujourd'hui, par rapport à la veille. On prévoit 34-35 à Orange, 33 degrés à Marseille, 31 à Dijon, Strasbourg et Grenoble, 28 à Cannes ainsi qu'à Paris, 26 à Lille ainsi qu'à Cognac, 23 degrés à Royan et pas plus de 20 degrés à Brest.
Météo complète de Marlène Duré. C'est la fin de ce journal. Il est minuit et 6 minutes. Vous êtes sur Europe. La suite du programme, c'est la Libre Antenne avec vous, Sana Blanger.
Merci beaucoup, Yasmina.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sana Blanger.
Bah, à bientôt. Avec nous sur Europe 1, vous écoutez La Libre Antenne. Et si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble encore pour une petite heure. Et juste après une toute petite pause, nous nous retrouvons avec Sabine. Sabine. Donc, juste avant les actualités, nous étions en train de vous écouter sur, clairement, l'histoire de votre vie, la relation très, très proche que vous avez avec votre fils qui souffre d'un TDAH, qui a 13 ans et demi. Vous avez dit que la situation se dégradait de plus en plus pour lui, donc des difficultés à l'école. Des difficultés ouais. Également pour vous, puisque au niveau de votre métier, vous êtes infirmière, une situation instable. Et puis, encore une épreuve difficile pour vous, puisque pendant le confinement, on a clairement une voisine à porter plainte à Enfance en danger, estimant
voilà,
que...
Mais la... sans,
la situation était grave.
Alors moi, je voudrais alerter quand même sur ça. C'est bien hein, de faire des signalements, c'est très très bien. Il faut être sûr, il faut s'assurer. Parce que moi, j'habite dans une résidence où les gens portent plainte pour un oui, pour un non. Il y a des rayures de voiture, il y a des choses. On entend deux voisins dans la résidence d'en face. Voilà, on suspecte de la violence conjugale, mais les faits ne sont pas avérés. Les gens sont prêts à appeler les gendarmes. Enfin, avant de faire tout ça, je pense que ce serait bien quand même d'aller voir si les gens ont besoin d'aide.
Oui.
Ma voisine proche, ma voisine directe. Enfin, avant de créer des situations d'alerter et de créer des situations très graves derrière avec des conséquences graves, parce que cette voisine, je l'ai recroisée aujourd'hui.
Alors,
qui m'avait prévenu qu'elle avait porté plainte. Oui. Et ben, elle me dit « Alors, ça va ?» Très sûre d'elle et très arrogante. Elle n'a pas d'enfant quand même, pour la petite histoire. 33 ans, pas d'enfant. Et je lui dis « Est-ce qu'on peut considérer que se faire enlever son enfant, enfin que mon fils va être placé, on peut considérer que ça va mieux ?» Je ne suis pas persuadée. Et très hautaine et très sûre d'elle, dans la provocation, elle me dit « Ah, mais vous pouvez venir discuter quand vous voulez à la maison. » À un moment donné, je pense qu'il aurait été préférable qu'elle vienne frapper à la maison, qu'elle vienne voir ce qui se passait et qu'elle vienne constater et qu'elle vienne discuter avec mon fils, avec moi, avant de créer des situations, de décrire. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans cette plainte parce que le rapport, je ne l'ai pas... On m'a juste averti qu'elle avait dit qu'il y avait eu une altercation, que j'avais tapé mon fils sur le balcon. Enfin, j'ai eu quelques détails et que je l'avais insulté, enfin, qu'il subissait... mon fils, on n'en est pas là du tout.
Alors, Sabine,
ça grave.
Je vais me faire l'avocat du diable.
Oui.
Il peut être intéressant que vous alliez voir cette voisine, que vous puissiez vraiment échanger et qu'elle apprenne à vous connaître et qu'elle comprenne exactement ce que vous vivez, ce que vous traversez, à la fois vous et votre fils. Pour quelle raison ? Parce qu'on ne sait jamais s'il peut y avoir encore une fois une enquête de voisinage. Mmh. Ça peut pour le coup vraiment aller dans votre sens. Elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas ce qu'il se passe. Donc, c'est pour ça que je vous dis peut-être.
Oui, non, mais pourquoi pas ? J'écoute.
Ça peut être
pourquoi pas ?
Intéressant, même si je peux comprendre et votre colère est légitime.
Les conséquences vont être graves. Les conséquences vont être très graves.
Oui.
Même si c'est conflictuel avec mon fils, même si c'est compliqué, viscéralement, là, j'ai vécu 3 jours dans l'enfer parce qu'on m'annonce en fait lundi pour la conclusion de ce rendez-vous. On m'annonce en fait que le papa qui n'a pas pris son fils depuis un an et qui est dans une inertie, une absence totale depuis 13 ans et demi, où on dit de faire le deuil du papa, depuis tous les thérapeutes me disent ça. On me dit l'enfant va être confié à son papa. Ah. Et là, ça vous scotche, ça va à l'encontre de tous les jugements. Mais j'entends ce que vous me dites. Donc, j'ai été vraiment extrêmement choquée, effondrée, anéantie pendant 3 jours dans ma chair, viscéralement, où je n'ai pas vu le jour, où je n'ai pas dormi, où je n'ai pas mangé. Parce qu'on touche à ce que j'ai de plus cher, parce que je me défonce, parce que je me bats au quotidien pour offrir un quotidien correct. Dans l'amour d'une maman, avec une implication terrible.
C'est injuste.
Et c'est des propos qui sont graves. Et aujourd'hui, on a décidé. Alors, on m'a présenté les choses. Bon, on sent que le papa, en fait, est dans la boucle depuis longtemps parce que, il a été averti. Il m'envoie aujourd'hui des textos respectueux et cordiaux, ce qui n'a pas été le cas. Et j'en avais fait part à l'éducatrice il y a 3 semaines en disant je suis vraiment surprise. Ça s'arrange avec le papa, il sait bien, j'en ai fait part à Thomas, ça évolue dans le bon sens, je lui ai fait part de ce qui se passait, du positif de la situation, le positif ou le négatif, je lui en fais part quoi qu'il en soit.
Oui,
j'étais plutôt contente de cette tournure d'événement, et j'ai compris aussi au travers de quelques questions que le papa était dans la boucle, lui qui ne voulait pas du tout de son fils, aujourd'hui veut bien de son fils, très bien, vous avez raison, peut-être que la voisine j'irai la voir, pour lui aussi lui expliquer les conséquences graves que ça va générer. Moi, j'ai un petit garçon derrière ça, donc qui a 13 ans et demi. Derrière, je ne suis pas sans rien faire parce que je ne sais pas rien faire. Je suis dans la résilience et je ne supporte pas l'injustice. Donc, j'ai appelé une juriste qui est dans le droit des femmes, le CDIFF. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très, très bien pour les femmes où tout est gratuit.
Vous avez bien rappelé le CDI?
CIDFF, c'est le Centre des droits des femmes, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'appellation exacte.
D'accord.
J'ai le numéro de téléphone en tête, il y a des juristes qui sont très très bien, dont une. Moi, j'ai monté mon dossier l'année dernière où je me suis représentée seule devant le JAF. Elle m'a aidée à constituer mon dossier et on peut poser des questions où tout est gratuit. Voilà, mon fils a 13 ans et demi, donc il va pouvoir prendre la parole devant le... Donc il y a une audience qui a été fixée aussi fin août, donc ça va aller très très vite, et avec un départ immédiat si on décide de ce choix. Si les conclusions de l'éducatrice sont suivies, et bien souvent la juge suit les conclusions de l'éducatrice, j'ai décidé aussi pour récupérer le rapport, enfin pour que je peux consulter le rapport de l'éducatrice, mais j'ai pas pensé à le faire lundi tellement en état de choc et tellement anéanti et un tsunami qui vous arrive dessus et vous essayez de garder le contrôle et de ne pas vous écrouler pour ne pas montrer une fragilité, parce qu'après voilà, on va dire que la maman est fragile, voilà comment on s'est interprété quand vous pleurez. Et donc j'ai décidé, j'ai fait le choix hier dans un moment de lucidité et aussi par mon médecin traitant qui m'a hyper soutenue, qui m'a dit mais c'est pas vous ça, faut vous battre, c'est pas vous, faut pas lâcher l'affaire.
Bien sûr.
Donc j'ai décidé, j'ai fait le choix de consulter un avocat, un premier qui voulait me prendre 230 euros hors taxe de l'heure. Enfin, je tiens à le dire parce que c'est quand même hallucinant. Donc j'ai fait le choix d'aller vers un avocat moins cher, bon bref, et qui m'a l'air très très bien pour l'avoir consulté aujourd'hui. Et bon voilà, elle va me représenter, elle va demander le rapport de l'éducatrice, voir ce qu'il y a dans ce fameux rapport, ce qui est à charge en fait. Et puis aussi préparer la défense, elle va m'assister le jour de l'audience.
Qui est prévu pour quand ?
Qui est prévu a priori le 26 août, enfin j'ai pas de date officielle, mais en fait on le saura 8-10 jours avant l'audience. Donc on pourra récupérer le rapport que dans ces temps-là, donc pour préparer la défense c'est compliqué. C'est vrai que ça inhibe, ça anesthésie. Moi aujourd'hui je me dis, je recherche du travail, je passe des entretiens et je ne sais plus si je dois aller travailler, pas aller travailler. Et... voilà. Thomas va aussi partir chez son papa 15 jours, ça va être un élément test pour la suite. Voilà, je pense que de toute façon... son papa va devoir, enfin je suis convaincue que Thomas va partir chez son papa quoi qu'il en soit, j'en suis convaincue aujourd'hui, je m'y prépare parce que voilà, mais son papa en même temps ça va le confronter à la réalité, il va devoir assister aux rendez-vous médicaux, aux commissions scolaires avec les enseignants référents et voir aussi, je pense que le comportement de Thomas il va le découvrir, il va voir comment se comporte Thomas et la réalité du terrain, j'ai envie de dire. Voilà, et Thomas... voilà, le quotidien. Et j'ai appris aujourd'hui aussi que Thomas, enfant mineur, a le droit aussi à une aide juridictionnelle et a le droit d'être assisté par un avocat. Et c'est hyper important parce que l'année dernière, il a dû s'exprimer devant ses parents. Alors ça, j'ai pas compris, devant le juge des enfants. Et ça a été hyper compliqué pour lui, hyper traumatisant aussi parce qu'il a entendu des choses, que son père voulait limiter le droit de visite chez lui, enfin des choses comme ça, il était présent. Et il a dû s'exprimer aussi, prendre la parole devant nous du haut de ses 12 ans à l'époque. Où il a dû, on lui a demandé son avis, qu'est-ce qu'il pensait des mesures qui avaient été mises en place. Il avait décroché, je pense, parce que du fait de son hyperactivité, il a un trouble de l'attention, enfin, il décroche très vite, et puis ça le gavait, il y avait des termes juridiques, même les adultes, on peut décrocher.
Un gamin de 12 ans,
donc,
franchement.
Voilà, et donc là, il va devoir prendre la parole, j'espère juste qu'il va s'entretenir seul avec le juge, et moi, je l'ai eu au téléphone là, en lui disant, bah voilà, il y a... des nouvelles qui ne sont pas très bonnes, mais il est en vacances, donc je n'ai pas voulu lui pourrir ses vacances. Je le revois ce week-end. Et il m'a dit clairement qu'il ne voulait pas aller habiter là-bas, que sa vie, c'était là.
Oui.
Que ses copains, son repère, c'était là, que sa vie, c'était avec moi. Et que de toute façon, il n'irait pas habiter là-bas, qu'il fuirait. Donc voilà, donc on en est là et que bon, il y a une audience. Voilà, je vais certainement demander si Thomas est d'accord et si voilà la présence d'un avocat aussi pour lui, pour qu'il soit représenté. Mais voilà, moi mon témoignage.
C'est une excellente idée. C'est vraiment une très bonne option qu'il ait en plus un avocat qui le représente.
Parce que s'il est tétanisé par la peur, l'angoisse, par l'émotion, il va pas pouvoir s'exprimer. C'est compliqué aussi dans ses parents, ses propres parents, de dire il y a papa, il y a maman, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai le droit de pas dire pour pas blesser l'un, pour pas blesser l'autre, et d'être dans une neutralité, dans une...
C'est ça. C'est la neutralité que vous n'avez pas, vous. C'est-à-dire que même si vous dites, mais non, écoutez, son père ne s'en est jamais occupé, etc., etc., vous n'êtes pas neutre. Alors que là, Thomas va pouvoir s'exprimer, va pouvoir dire à la fois ses angoisses, ses peurs, ses interrogations, et c'est bien que ce soit quelqu'un de neutre, entre guillemets, en tout cas extérieur à tout cela, qui puisse être le relais de tout cela.
Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que je l'ai compris à la commission scolaire de juin, où en fait, voilà, il y a eu très peu de temps scolaire en fait, mais il y a quand même eu une commission scolaire où j'avais aussi alerté. J'ai jamais été sans mentir, j'ai toujours été très transparente et très honnête avec l'assistante sociale de l'école, l'infirmière de l'école, le médecin de l'école, enfin le papa, où tout le monde est en copie de tout, le pédopsychiatre, enfin, je mets tout le monde dans la boucle, dans les mails. J'ai remonté un dossier MDPH, donc enfant handicapé, où en insistant, en disant que les mesures n'ont jamais, au grand Dieu, jamais été mises en place, le CESA d'ITEP, et là je demande un internat, un ITEP, pour qu'on l'éloigne de moi, mais pour aussi pour donner du cadre avec des intervenants extérieurs, puisque moi, a priori, je suis en difficulté, c'est vrai, dans l'autorité, parce qu'il teste mes limites en permanence, mais c'est aussi un adolescent, mais je ne suis qu'une maman avec mes faiblesses, et pas très aidée.
Alors, moi, j'aimerais juste vous demander quelque chose, Sabine.
Oui.
J'aimerais bien que vous remplaciez vos faiblesses, ce mot, ce terme-là, par vos résistances.
Oui.
D'accord.
Et parce qu'on me dit tellement que je suis fragile, voilà. On n'arrête pas de me dire ça, mais j'ai des amis qui me disent « mais moi je suis incapable de faire tout ce que tu fais, t'es toujours dans le combat, t'es toujours dans la résilience ».
C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous êtes en fragilité aujourd'hui, mais vous n'êtes certainement ni faible, ni fragile. Et là, en fait, au lieu de dire que vous avez des défauts, vous avez des résistances, d'accord ? C'est déjà plus... Okay. Ça passera mieux de dire des résistances que des faiblesses. Et puis c'est normal que vous soyez fatiguée. Depuis le temps, vous vous battez sur plusieurs fronts. Déjà, en tant que femme, vous êtes seule. En tant que mère, c'est compliqué.
Et on se sent jugée, disqualifiée. Je suis fatiguée. Là, l'éducatrice, c'est que ça.
Alors, il y a des messages, en tout cas, extrêmement... positif pour vous. On vous dit Sabine est une femme qui a beaucoup de qualités et de valeurs. Je lui souhaite beaucoup de courage et d'être heureuse. Elle le mérite. Donc c'est Delphine, Delphine qui souhaite être en contact avec vous. Bonsoir, je suis AVS en Ulysse École avec des enfants handicapés. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce que c'est d'avoir un enfant en situation de handicap.
Oui,
je vois malheureusement beaucoup de parents dans votre cas. Surtout battez-vous.
Mais en fait, ce qui se passe, si je peux intervenir 2 minutes, en fait, ce qui se passe très honnêtement, moi j'ai eu un enfant qui a eu un parcours, le premier, mon fils Mathieu, qui est brillant, qui est merveilleux, enfin voilà, rien à voir avec Thomas, ils sont différents, c'est tout, mais il a été brillant scolairement.
Ouais.
Aucune intervention scolaire, il a poussé comme de l'herbe et brillant. Bac avec mention très bien, il fait des études d'ingénieur, ça se passe très bien. Et Thomas, en parallèle, où il y a des difficultés, il sort du cadre. Et en fait, le cadre scolaire, quand vous avez un enfant qui sort du classique, quand il n'est pas dans la norme, c'est pareil quand il est brillant, quand il est, ça s'appelle, les enfants qui sont...
précoces.
Précoce, avec un coefficient intellectuel supérieur. Il s'ennuie à l'école. Thomas s'ennuie, il est surdoué. Moi, il a un trouble de l'hyperactivité et de l'attention. Et bien, en fait, quand il y en a un qui fait le con dans la classe, c'est forcément lui. C'est lui qu'on va sortir de cours. C'est forcément lui qui a fait la bêtise. Et des fois, il me dit, mais maman, c'était pas moi. Et des fois, je le crois. Enfin, il est dans une sincérité. Il est touchant. C'est pas un méchant, en plus.
Ouais.
C'est un gentil garçon. Il est rebelle. Il est comme tous les ados de son âge. Mais sincèrement, dès que ça va pas dans la classe, voilà. Et en fait, on l'a stigmatisé. On l'a pris en grippe, très honnêtement. Donc moi, je suis interpellée très souvent par le... Je comprends aussi que pour les enseignants, c'est compliqué de faire la classe à 30 élèves quand il y en a un ou deux qui sont perturbants, parce qu'un perturbateur en permanence, qui ont décroché, qui ricanent, qui amusent la galerie. Et je comprends, mais qu'est-ce qu'on a comme nous, comme parents, qu'est-ce qu'on nous propose d'autre pour gérer ces enfants en difficulté et qui sont... Alors, l'école, c'est anxiogène. Thomas, il y va à l'école. Hein. Il fait l'eczéma de folie quand il va à l'école, sur les mains, sur les bras, partout. Oui. Et c'est hyper anxiogène. Il le dit. Il part à l'école avec un mal de ventre. Il est sous passe-fond très régulièrement.
Ah oui.
Mais qu'est-ce qu'on propose à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on a?
Et moi, Sabine, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ce que vous ne faites déjà? C'est-à-dire que entre tous les rendez-vous, pédopsychiatre, sincèrement, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Et à côté, vous l'accompagnez, vous faites du sport avec lui, enfin, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Là, vraiment, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus que ce que vous ne faites déjà?
Je sais pas, je sais plus, mais en attendant, on vous interpelle tout le temps. Quand vous êtes en week-end, vous vous dites, bon, au moins là, on va pas m'appeler, l'école va pas m'appeler, on va pas avoir, il a des heures de colle très souvent, où on vous appelle parce qu'il a perturbé je sais pas qui, donc il faut rencontrer la maman. C'est oui, dans, moi dans ma vie perso, bah oui, ma vie elle est en stand-by. Voilà, professionnellement ça ça aide pas. C'est professionnellement j'ai mis ma carrière un peu en.
Et vous êtes seule, Sabine? Les grands-parents, enfin vos parents, comment ça se passe avec les grands-parents?
Ma mère est toxique, j'ai coupé les ponts avec elle en 2013 et elle a sombré dans l'alcool. Elle m'avait attaqué en justice pour la garde de mon fils aîné en 2006. Voilà. Je lui avais reparlé, mais voilà. Elle a toujours fait des différences entre mes deux enfants. Mathieu, c'était le premier enfant, il a été porté, il a été mis sur un piédestal.
Vous êtes fille unique?
Donc, non, j'ai un frère, mais voilà, il n'y a pas de relation. On était hyper proches et sa femme a fait en sorte qu'on se côtoie plus, mais on était comme des jumeaux. Ça a été, une grosse difficulté aussi. Et voilà. Et mon père est décédé, j'étais jeune, j'avais 16 ans et demi. Et voilà.
Vous avez
des
amis?
Très peu de... Oui, j'ai quelques amis, mais la situation fait fuir aussi. On connaît le trouble que mon fils a et des fois on m'invite plus parce qu'il peut être agaçant, parce qu'il peut être perturbant lors d'une réunion, lors d'un repas. Donc ça isole, ça isole terriblement. Voilà, ou quand vous appelez de l'aide, moi j'ai eu des amis hommes, très honnêtement, je suis constituée normalement, enfin voilà, j'ai eu plus des propositions malsaines et... Voilà, je peux venir manger chez quelqu'un, mais seul et sans mon fils et avec des propositions indécentes. Donc je coupe les ponts et je priorise mon fils, oui, bien évidemment.
Ouais.
Voilà. Donc, voilà où on en est aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a de positif quand même dans votre vie?
Qu'est-ce qu'il y a de positif? J'ai mon fils aîné qui revient vers moi parce qu'il avait pris large depuis 2 ans, parce que c'était aussi dur pour lui de voir son petit frère comme ça, parce qu'il trouvait que je donnais trop d'intérêt à son petit frère. Et là, il revient. Donc, on a repris contact. Il vient voir son petit frère. Et j'espère avoir un peu de soutien de sa part.
Oui, je vous le souhaite aussi. Parce que là, 23 ans, c'est bien.
Et qu'est-ce qu'il y a de positif? Je me le demande. Moi, je ne pars pas en vacances depuis 3-4 ans. J'envoie mon fils quand je peux. On essaie de s'accorder des petits moments, de faire du karting, des choses très simples localement. Mais voilà, j'ai des moyens limités. Là, je vais faire un crédit pour payer l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Je suis très investie dans mon travail en général. Voilà, j'aime ce que je fais. Je suis infirmière par passion. Ça donne du sens à ma vie, ça donne du sens à ce que je fais et il y a une grosse reconnaissance.
Super. Donc là, vous êtes en poste, en intérim, c'est ça ou...
J'ai terminé une mission là début juillet.
D'accord. Et donc là, pour le moment,
ça s'est hyper bien passé, mais voilà, ça s'est terminé parce que ma collègue était en longue maladie, elle est revenue avec l'effet Covid, elle est revenue un peu plus tard que prévu, mais elle est revenue, et tant mieux pour elle.
D'accord.
Mais je suis en phase de recrutement, je passe des entretiens, mais je ne vous cache pas que avec ce qui m'est tombé dessus, c'est un petit peu compliqué, avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, et on se dit comment je vais vivre jusqu'à fin août. J'ai eu 3 jours où, j'ai pleuré comme jamais, comme si je vivais un deuil, comme si j'allais perdre quelqu'un. Et vous vous dites comment je vais vivre jusqu'à fin août jusqu'à la date de l'audience. Mon fils revient là ce week-end de vacances et il faut que je sois punchy, il faut que je sois dynamique, il faut qu'on passe des jolis moments ensemble.
C'est exactement ça. Mais sans forcément vous dire que ça va être la séparation définitive, rien à voir avec ce que vit Thomas avec son papa. Rien
c'est
à voir.
C'est pas le but. C'est pas le but. Je viens, on va le garder. Il y a pas de souci.
Oui, bien sûr. Et puis c'est même pas dit qu'il
parte. Je comprends pas
en fait
le verdict. Oui, je sais. Si je me bats autant, si je prends un avocat, c'est pour... même si forcément en ce moment, j'ai pas trop les moyens sur ça, mais l'idée, c'est de me dire que je vais tout faire jusqu'au bout pour... je pourrais rien me reprocher. Et la parole de Thomas, elle va compter inévitablement.
Mm-hmm.
Voilà.
Et
il y a un sentiment d'injustice, c'est ça que je voulais dire. J'entends souvent des témoignages sur votre radio où il y a des mamans dans ma situation où on ne comprend pas ce qui se passe. La justice, elle se retourne, il y a un effet boomerang, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Moi, tous les jours, je me réveille et je me dis, c'est pas vrai, je ne suis pas dans cette réalité-là.
Ah, c'est Yvan qui a envoyé un SMS tout à l'heure et qui disait, faites attention, vous êtes dans l'œil du cyclone avec l'administration. Ça rejoint ce que vous dites. À savoir, on a le sentiment qu'une fois que c'est parti, on met le doigt dans une forme d'engrenage.
On en sort pas.
C'est avec toute une injustice, mais comme on le dit très souvent, attention, la justice n'est pas la vérité. Donc, C'est...
Mais en attendant, c'est eux qui vont trancher, qui sont maîtres de ma vie aujourd'hui. Et il va falloir que j'explique ça à mon petit garçon, à mon garçon. Et voilà, et lui, il comprend pas. Il croit qu'il y a un papa, il y a une maman. Et il croit qu'il a le droit de dire « Maman, je vais rester chez toi ou je vais aller chez papa. » Mais je lui dis « Non, non, il y a un autre intervenant. Il y a une tierce personne qui a un droit de regard sur notre vie et qui va trancher pour nous, Thomas. » Mais bon, voilà, j'ai demandé de l'aide. Et en fait, voilà, il y a plein de gens aussi qui me disent « Mais t'aurais jamais dû, t'as mis le doigt là-dedans. Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et moi, persuadée qu'on allait me venir en aide, vraiment.
Oui. Bon, vous avez parlé tout à l'heure du CNI. DFF.
CI, le centre, ça y est, le centre d'information national, c'est des, le centre national. Des droits des femmes.
Voilà.
Ah, c'est national.
Centre
D'accord.
national d'information sur les droits des femmes et des familles.
Oui.
Et il y en et a en partout fait, en France.
Oui, il y en a partout en France. Il y a des juristes qui sont très, très bien et voilà, qui sont très au top, qui font des formations. Je tiens à le dire pour des gens qui en ont besoin parce que toutes les informations sont gratuites. Moi, j'ai monté des dossiers, même des droits, par exemple, par rapport à des droits notariaux, des choses comme ça. Enfin, j'ai une autre affaire aussi en cours avec un ex-conjoint sur une maison. J'ai acheté en indivision, mais ce n'est pas le problème de la soirée. Voilà, enfin, pour tout renseignement, il y a des gens très compétents, des juristes qui vous informent, qui sont hyper gentils, hyper compétentes, et tout est gratuit. Vraiment, c'est des gens sur qui on peut s'appuyer, et c'est hyper important quand on n'a pas de besoin. Après, il y a l'aide juridictionnelle pour ceux qui n'ont pas... Mais moi, je n'y ai pas droit, je suis limite... Voilà, mais c'est quand même un service qu'il faut pas négliger parce que c'est vraiment des gens. Enfin, je tiens à le préciser, quoi.
Merci.
Ça peut aider des gens.
Alors pour Thomas, ce sera vraiment intéressant, effectivement, qu'il ait quelqu'un qui puisse le représenter. Beaucoup, ça réagit énormément au standard pour vous. Courage, Sabine, vous êtes très courageuse, c'est Annie qui vous envoie tout son soutien. Courage, vous êtes merveilleuse, j'ai connu les mêmes tourments il y a quelques années, je suis tout cœur avec vous, je vous embrasse, Caro. Zoro qui vous dit bonsoir à votre auditrice, courage pour surmonter ces problèmes, donc beaucoup de soutien. Sabine, moi je vous propose qu'on fasse une toute petite pause musicale, si vous êtes d'accord. Et puis j'ai quand même quelques petites questions encore à... Bon, l'émission est courte, mais votre histoire est à la fois... Enfin, elle est fascinante dans le côté, voilà, tout ce qui arrive, pas sur le « waouh ». Et j'ai encore quelques petites questions à vous poser, si vous êtes d'accord.
Oui, bien sûr.
Bon, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne.
Sana Blanger.
Et nous retrouvons Sabine. Sabine, comment vous vous sentez ?
Soulagée, enfin, ça fait du bien oui. que les auditeurs apportent leur soutien, que vous m'écoutiez, enfin, de se décharger aussi de toute cette charge émotionnelle aussi. Voilà, même si depuis 3 jours, bah, je pense que j'ai beaucoup pleuré, beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à un axe de défense déjà en allant voir une avocate parce que je me dis que le meilleur moyen, c'est de me procurer le rapport de l'éducatrice pour assurer au mieux ma défense,
oui.
ma défense comme si j'étais une condamnée. Comme si voilà. Et l'idée aussi de vous appeler ce soir, c'était aussi de si des auditeurs ont des axes ou des idées pour me défendre. Enfin, ça m'ennuie de dire ça. Vous voyez, par exemple, moi j'étais voir mes voisins, personne n'a été enquêté. Mon médecin traitant, je l'ai vu pour autre chose et elle me dit ah, mais c'est marrant, personne m'a appelé. Enfin, je me dis mais sur quoi on se base. Enfin, s'il y a des auditeurs qui ont une réflexion, un historique par rapport à ça ou une expérience comme tout à... Moi, c'est juste aussi pour pouvoir me préparer au mieux. Mmh. Je dois aborder aussi mon fils en essayant d'être dans une neutralité le plus possible ce week-end quand il va rentrer. Je me dis comment l'aborder, comment lui parler de quoi. Tu vas aller chez papa parce que il faut que tu aies un lien avec la jante masculine. Enfin, je sais pas trop. J'essaie de réfléchir pour pas le heurter, pour pas moi non plus.
Alors justement, tout à l'heure, juste avant, je crois que ça devait être avant ou après les actualités, vous nous avez dit que le papa, soudainement, vous envoyait des SMS où il était beaucoup plus
oui.
conciliant,
oui, tout
plus avenant,
plus arrangeant, cordial.
Tout à fait, plus cordial.
On avait arrêté les insultes.
Voilà. Alors... c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous nous avez dit également qu'il avait une compagne qui, pour le coup, était plutôt sympathique. manifestement.
Oui, alors.
Voilà.
Oui, tout à fait. Elle a toujours géré Thomas, comment dire, jusqu'il y a 2-3 ans. Et depuis 2-3 ans, là, elle est sortie un peu du... C'est elle, en fait, c'est avec elle que j'avais affaire.
Oui.
Et là, il a repris le flambeau, on va dire, ou voilà, peut-être parce qu'elle se fatigue ou qu'elle s'épuise. Mais en tout cas, ça se passait très bien. Enfin, ça se passait bien avec elle, en tout cas.
D'accord.
Quand c'était lui, c'était des... Enfin, il m'envoyait des mails ou des insultes. Mais quand ça se passait pour les réservations de billets de train, c'était avec elle et c'était... Elle était normale, elle était conciliante, ça allait.
D'accord. Donc, c'est en cela que ça reste quand même positif, c'est de se dire, bon, est-ce que vraiment le tableau est si noir que ça, quant au fait qu'il puisse aller chez son père ? Alors, je sais, encore une fois, la question peut paraître étrange par rapport à tout ce que vous nous avez décrit sur ce monsieur qui est... avant tout un père absent, qui est un homme jugé... alors, je ne sais pas sur quels critères est-ce qu'il a été estampillé pervers narcissique. Donc, est-ce que dans ces cas-là, vous savez, vous, pour quelles raisons est-ce que tout à coup, il est devenu charmant ?
Parce que je pense que, l'éducatrice a dû le mettre dans la boucle en lui disant, voilà... Alors, pendant le confinement, on lui a demandé aussi de venir chercher son fils et il n'a pas voulu. Et au final, moi, j'en ai fait part de ça, ça ne m'était pas réservé. Et Thomas, en fait, est resté pendant le confinement seul à la maison. Moi, je rentrais à 17h, 17h30.
Oui.
Alors que lui, il a une grande maison dans le Var avec piscine, enfin, même si au mois d'avril, on ne se baigne pas forcément, mais il y avait un cadre plus idyllique qui fait plus rêver et sa compagne est à la maison. Moi, je travaillais. Eh bien, il a refusé de venir le chercher. Le confinement m'a été réservé, exclusivement réservé. Enfin, 2 mois à la maison, vous ne pouvez pas... Il a 13 ans et demi, Thomas, à un moment donné. Moi, je rentrais le midi voilà, pour assurer le repas. Mais ça a ses limites aussi. Et le papa, il ne s'est pas du tout senti impliqué aussi sur cette part. Et j'en ai parlé aussi avec le directeur du pôle ouvert et de l'éducatrice. Mais ça, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était moi. C'est moi qui ai mal géré. C'est moi qui ai pété les plombs un soir. Voilà, on m'incrimine de tout, mais en même temps, la part de responsabilité du papa, elle est où dans tout ça ? Enfin voilà, bon, de toute façon, c'est du passé, c'est fait et c'est comme ça, mais est-ce que le tableau est si noir que ça ? Est-ce qu'il va enfin prendre ses responsabilités ? Est-ce qu'il va enfin s'investir ? Il ne l'a jamais fait avec ses 2 autres enfants, et on a envie d'espérer qu'il le fasse,
oui,
et pourquoi pas ? Et tant mieux pour Thomas, si c'est ça,
ouais,
si c'est l'intérêt
voilà.
De Thomas, pourquoi pas ?
Ouais.
Mais Thomas, il revendique haut et fort que sa vie, c'est là, enfin, ça fait 13 ans et demi.
Bien sûr.
Il est adolescent, enfin, je pense que ça ne va pas être simple. Et tant mieux, enfin, et quelque part, tant mieux si ça se fait, si ça peut les réconcilier. On me dit que la mesure, c'est pour 1 an ou 2. Une fois que c'est mis en place, c'est bien compliqué de revenir en arrière. Voilà, mais moi, la difficulté que la patience que j'ai, je ne suis pas persuadée qu'il l'aura. C'est quelqu'un qui est très impulsif, qui sort de sa voiture au péage, qui est prêt à casser la gueule au premier qui est devant lui parce qu'il ne prend pas son ticket assez vite. J'attends de voir avec Thomas. Quand à l'école, on va l'appeler matin et soir ou 2 fois par semaine, quand il va y avoir des mots dans le carnet de correspondance, je pense que ça va prendre une autre tournure.
Donc au mieux, oui. Thomas va revenir plus vite que prévu.
J'ai envie de penser qu'il ne va pas. Moi, je suis convaincue que oui, de toute façon, Thomas partira et que ça va vite tourner en autre boudin. Et que
Thomas va revenir. Voilà.
Oui, parce que moi, en fait, j'ai quand même mis des choses en place. J'ai demandé, en fait, par le biais de son dossier enfant handicapé, j'avais demandé un ITEP avec un internat à proximité de chez moi. J'ai rappelé cet après-midi. Enfin, je n'ai pas les pieds dans le même sabot, même si je suis hyper fatiguée, je ne dors pas bien. Mais j'ai quand même la tête sur les épaules. J'ai réactivé son dossier. La dame qui instruit son dossier, elle n'était pas là. Elle sera là mardi, mais j'ai une de ses collègues. Voilà, je leur ai dit que les décisions étaient importantes, que fin août, pour la rentrée scolaire, on veut scolariser Thomas dans un autre département, enfin à 500 km d'ici. Voilà, tout va se jouer fin août. Voilà, c'est donc j'essaie d'activer les choses parce que j'ai mis des choses en place aussi et que ma démarche, bien sûr que l'internat, c'est de remettre du cadre, c'est qu'il est affaire aussi à d'autres adultes que moi. Voilà, mais bon, est-ce que c'est la solution qu'il a chez son père ? Donc si le juge suit cette recommandation, de toute façon, j'aurais pas le choix que de l'appliquer. Mais c'est douloureux pour une maman. Enfin,
c'est injuste.
Faire part de ma souffrance.
Ouais,
oui, ce sentiment d'injustice, cette souffrance
qui est
intolérable. Je l'ai vécu comme un deuil.
Je comprends.
Comme un deuil et quelque chose, un état de choc. J'ai été anéantie, j'ai été. Oui, bouleversé. J'ai peur aussi à la réaction de mon fils parce que je sais de quoi il est capable.
Ouais.
Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas.
Alors, vous vouliez, vous avez fait un appel aux auditeurs en leur demandant des conseils pour, oui, pour tenir d'ici là, de savoir éventuellement s'il y avait des pistes. Alors donc, il y a toujours Caro hein, qui souhaite vous parler, parce que manifestement, elle a vécu la même chose que vous. Donc, elle
ça
dit,
hein,
voilà, donc, suite au témoignage de Sabine, j'aimerais alors, lui tendre mon oreille hein, si elle a besoin.
Oui.
En tout cas, elle a vécu l'enfer, dit-elle, hein, et, mais elle vous trouve très forte et donc elle souhaiterait s'entretenir avec vous pour vous soutenir et vous donner également certainement des conseils. Alors Laurence, j'aime beaucoup Laurence, voilà, je lui fais en plus une dédicace parce que c'est une auditrice très, très fidèle et qui donne toujours des conseils assez pertinents, je trouve. Hein. Et donc elle vous conseille, elle vous recommande de faire un maximum d'attestations si vous pouvez auprès de votre famille, vos amis, même le collège, voire le CMP, enfin toutes les instances et toutes les personnes qui vous entourent pour aller au moins de façon extrêmement factuelle dire ce qu'il voit et ce qu'il basé sur des faits, hein, sur la situation et sur toute l'énergie que vous mobilisez pour votre fils. Et c'est pour cette raison que je trouve que ça peut être vraiment intéressant que vous alliez voir cette voisine qui, bien qu'elle est, parce que voilà, c'est bien aussi de tomber sur des personnes qui font ce type de signalement, ce serait vraiment bien qu'elle puisse attester qu'elle se soit peut-être trompée dans son jugement. Voilà, ça peut être une belle carte à jouer pour vous. Maintenant, forcément, moi j'aurais tendance à vous dire qu'il faut rester positive, de continuer à rester positive. Comme vous le faites, de continuer à être forte. Là, vous avez pleuré 3 jours. On comprend que vous soyez démunie, désarmée, le contre-coup, triste, écœurée. C'est légitime.
Bah, vous perdez le goût de la vie, en fait. Enfin,
ouais.
C'était insipide. Ouais, vous voyez, là, c'est les soldes. Enfin, je voulais préparer la rentrée scolaire de mon fils. J'ai commencé à lui acheter quelques vêtements et tout. Et ça paraît tellement... comment dire, léger ce que je vais dire, mais vous êtes dans le magasin et en fait, vous faites demi-tour, vous n'y arrivez pas, vous rentrez dans la chambre de votre fils, vous pleurez parce que vous vous dites que bientôt il sera plus là. Enfin voilà, vous rentrez dans les magasins, vous voyez, vous regardez les vêtements, vous commencez à vous dire, voilà, je vais reconstituer sa garde-robe et tout, et en fait, vous n'y arrivez pas. Vous partez oui, l'arme à l'œil parce que vous vous dites, à quoi ça sert ? Enfin voilà, vous avez le goût de rien, c'est compliqué, et puis vous êtes... en rumination permanente, c'est en boucle dans votre tête, c'est compliqué. Bon, après, il y a quelques amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit « il faut que tu sortes de chez toi parce que vous ne sortez plus, vous faites les 400 pas. » Parce que pour moi, c'est le drame de ma vie, parce que mes enfants, c'est tout, parce que je me suis toujours battue pour eux. Et j'ai eu deux pères démissionnaires, mais plus simple avec le premier papa qui a lâché l'affaire. Mais bon, voilà, c'est tout, j'ai élevé mon fils, bon, voilà. C'est guère mieux pour Mathieu, parce que l'image du père... voilà, il y a quand même des fractures et des failles.
Et il y a autre chose, hein. Mathieu, c'est quand même une référence. C'est une référence que vous êtes en capacité de pouvoir également à la fois gérer le côté, comment dire, quand ça fonctionne. Et là, vous faites vous faites tout ce qu'il est possible, je vous ai dit, mais sincèrement, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Sabine ? Rien, vous avez tout fait. Tout ce qui était possible pour faire en sorte que Thomas se sente mieux, au moins mieux. Vraiment.
Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a le système qui colle pas, enfin le système scolaire, le système aussi médical, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a tellement d'enfants en situation de difficulté avec une problématique médicale en attente. Donc finalement, les enfants ne sont pas pris en charge. Et bah voilà, Thomas, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que ça dure l'affaire. Il devrait avoir un psychologue, une éducatrice sur les temps scolaires. Et en fait, il est en attente. Comment voulez-vous qu'à l'école, ça se passe bien ? La difficulté, la problématique, elle est là et elle s'aggrave même. Donc, vous voyez, moi, je suis en fait... ça me fait mal en fait parce qu'on a mis des choses en place. On a tiré des sonnettes d'alarme, mais on attend. On est en phase d'attente et il n'y a rien qui se passe. Et je peux vous dire que chaque rentrée scolaire, vous vous dites, allez, pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'il y ait des profs conciliants et que ça se passe, enfin voilà, qu'on le stigmatise pas dès le début de l'année, parce que là on en a pour 10 mois, et voilà. Mais bon, c'est oui, non, mais je veux bien oui échanger avec des gens qui ont vécu ce genre de choses ou qui ont des conseils à me donner. Je suis
absolument
preneuse, au contraire.
Ouais. Et est-ce que à travers votre parcours vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres parents justement qui ont des enfants qui présentent les mêmes troubles du comportement, voilà, comme,
oui,
comme Thomas.
Bien, ouais, sûr. Enfin, en tout cas, dans mon travail, là, sur mon dernier travail, j'ai rencontré des salariés, des collègues de travail qui me disaient, mais comment tu fais? Nous, on est deux. Il y en a un qui prend le relais quand, parce qu'en fait, c'est des enfants qui vous hyper sollicitent en permanence, qui lâchent pas, qui supportent pas les frustrations. Enfin, voilà, on
avec
va lui dire
crises,
une fois,
avec,
voilà, avec
des
crises,
ouais,
avec des cris, ou voilà, avec, on va leur dire 10 fois, va te laver les dents. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Il va revenir pour autre chose, vous lui demandez de ramener quelque chose et d'aller se laver les dents, il va faire qu'une chose à la fois. Enfin, il a beau avoir 13 ans et demi. Enfin, on se répète beaucoup, ça peut être usant, ça peut être fatigant, et puis ils lâchent rien quand ils veulent quelque chose. Bon, et puis il y a l'effet à adolescence qui vient se cumuler sur tout ça. Donc voilà, c'est donc voilà, moi j'ai des collègues qui me disent, bah heureusement qu'on est deux à la maison. Comment tu fais pour tenir? Voilà. Et puis voilà, le sport aussi, c'est un bon alternatif aussi sur ce genre d'enfant. Sauf que moi, tous ces temps de repos à Thomas, c'est MP, enfin, c'est psychologue, c'est pédopsychiatre, c'est je ne sais pas quoi. Donc ça devrait être sur les temps scolaires, mais ça n'a pas été mis en place sur les temps scolaires. Voilà. Donc au final, il n'y a plus de place pour aller faire du foot. Et quand il va au foot, bah, s'il ne fait pas les deux entraînements, il ne fait pas le match du samedi. Donc il n'y a plus d'intérêt. Enfin voilà, c'est compliqué.
Oui. Alors. Voilà.
Pour arriver à organiser tous les rendez-vous médicaux, les commissions scolaires, les machins. Et sincèrement, il me dit, moi, je n'ai plus une vie de petit garçon, maman. J'en ai marre de tous ces rendez-vous. Et il n'est pas entendu sur ça. Et j'entends, il a à la fois besoin de ces rendez-vous, mais enfin, je ne sais pas, c'est pas simple.
Oui. Marie Tam Tam, fidèle auditrice également, vous pose une question. Bonsoir Sabine. Ce signalement n'aurait-il pas un lien avec le Covid parce que vous êtes infirmière et que votre voisine a eu peur?
Alors, je ne sais pas, peut-être que... Oui, c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas, le Covid, en tout cas, il y a eu une majoration de stress chez pas mal de gens. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Moi, j'entends aussi que le Covid, ça a été... La situation, l'enfermement, en tout cas, a été complexe à vivre, dans 58 mètres carrés, dans un petit appartement. Et voilà, enfin, il y a eu des crises. Je ne vais pas le nier, je suis pas là pour ça. Et
alors,
c'est d'avancer.
Je vais vous dire, hein, je ne sais pas si ça peut vous rassurer ou pas, mais pendant le confinement, beaucoup, beaucoup de personnes ont vécu des crises.
Oui.
Voilà, donc c'était l'enfermement, c'était juste très compliqué pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc... C'est en cela que c'est extrêmement injuste. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y ait une décision aussi tranchée, alors que, voilà, on a vécu, nous avons tous vécu une aventure collective absolument inédite, où, franchement, c'était compliqué de rester en toute sérénité, avec un calme olympien, à être enfermé comme ça pendant 2 mois, à ne pas savoir ce qui allait se passer, à ne rien savoir sur cette maladie, enfin... C'était très anxiogène quand même, donc voilà, en cela c'est vrai.
Mais moi j'ai pas vu de thérapeute ou très peu. On a eu quelques coups de fil de la psychologue pendant cette période, mais l'éducatrice, on l'a vu réapparaître début juin, enfin fin mai début juin, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'indulgence. Voilà, on retient qu'une chose, c'est que le confinement, ça a été une période explosive chez nous.
Oui.
On retient que ça. Et il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas du tout, on ne se dit pas, bah oui, mais il y a un contexte qui était particulier, on ne se dit pas ça. Il n'y a rien qui vient atténuer. Et là, moi, je suis juste. En fait, le Covid a été une cocotte minute chez moi, ça a été. Voilà, et on va retenir que ça au final. Et moi, ça va me desservir, ça va. Ma vie va prendre une autre direction, enfin, surtout celle de mon fils, mais enfin, notre vie va prendre une autre direction, oui. Voilà, je perçois ça comme ça aujourd'hui, la conclusion c'est ça. Donc là, j'essaie de travailler l'acceptation comme quoi mon fils va partir, et je suis convaincue que ça ne se passera pas bien, enfin je suis convaincue qu'il reviendra très vite par ici,
oui.
Mais je travaille sur le fait qu'il parte parce que... parce que je pense qu'on va suivre les conclusions de l'éducatrice.
Un autre...
C'est des grands, c'est des professionnels.
Un autre auditeur aussi vous conseille de contacter la haute instance qui est bien évidemment le ministère, enfin le ministre de la Justice, avec notre nouveau ministre qui est Monsieur Dupont-Moretti. Est-ce qu'éventuellement...
Ah oui,
c'est...
oui, c'est avec.
Oui, est-ce que c'est...
Parce que vous savez, moi, je voulais, en fait...
Brigitte Macron
oui,
est très, très, très et sensibilisée à ces dossiers,
justement. Justement, je me suis dit, parce que là, j'ai vu des émissions sur la famille Macron récemment, L'Influente, ou un truc comme ça, c'était sur BFM, enfin, pour pas
les citer. Tout à fait, qui est passé il y a deux jours, je crois.
Dernier. Bah voilà, vous cogitez, vous refaites tout, vous êtes en boucle en permanence, et je me suis dit, mais si je lui écrivais, et si j'essayais de la sensibiliser à mon histoire, mais bon, j'ai peur aussi d'y passer un temps fou, et je me dis quel privilège j'aurais par rapport à d'autres, et comment je peux peser, comment je peux faire pour la toucher, voilà.
Alors,
il doit y avoir tellement de cas comme moi.
Ne jamais minimiser son action, et là je pense au colibri, vous connaissez l'histoire du colibri ?
Non.
Alors le colibri, en fait, vous savez, c'est ce tout petit oiseau et cette légende donc amérindienne du colibri où il y a le feu. Il y a le feu dans une forêt. Et puis donc tous les animaux, ils sont là, ils se mobilisent et puis ils essayent d'éteindre le feu. Et puis il y a ce petit colibri qui arrive et qui jette juste quelques gouttes. Et puis, alors je ne sais plus quel animal lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il lui dit, j'apporte ma petite contribution. Donc, ne minimisez pas votre action.
D'accord.
Faites-le.
Et l'adresse de Brigitte Macron, c'est quoi ? C'est l'Élysée ?
Oui,
absolument. On regarde sur Internet.
Absolument, absolument.
Et, ça va lui arriver forcément.
Ça va forcément lui arriver. C'est vraiment un sujet sur lequel elle est vraiment très mobilisée, qui lui tient vraiment à cœur. Et faites-le. Vous savez, comme une bouteille à la mer, et puis on ne sait jamais.
De remettre en cause les instances juridiques, le pôle ouvert, en fait, c'est des gens qui dépendent du ministère de la Justice. Je me dis, mais moi, la petite Sabine, de quel droit elle se permet de remettre en question un fonctionnement ? T'as une plainte au fait, je ne sais pas ce qu'elle a mis dans sa plainte, mais voilà, dans son signalement, je me dis, de quel droit comment je vais prouver, moi, toute mon implication ? Enfin, ce que je vous ai dit ce soir, je peux le retranscrire, bien évidemment.
L'objectif n'est pas de remettre... Bien sûr, Sabine, l'objectif n'est pas de remettre en question toutes les instances et toutes les décisions. Mais néanmoins, quand il y a des failles, parce que nous restons humains derrière tout cela, il y a les lois et puis ensuite il y a l'humain. Donc c'est pour cela que je dis, faites-le quand même, cette bouteille à la mer, et on ne sait pas ce qui va se passer après.
Ouais. Mais je vais le faire, je vous tiendrai au courant de toute façon de l'audience fin août.
Oui, tout à fait.
Je vais écrire à Mme Macron, mais elle doit partir, je pense, dans le Var, en vacances. Elle n'aura pas ma lettre. Oui, voilà. Donc, il faut qu'elle ait ma lettre. Si ce n'est pas une petite main qui répond à sa place. Bon, je vais lui écrire. Non, ça faisait partie des projets, mais...
On vous y invite également, vraiment. En tout cas, avec tout ce que vous faites... J'espère vraiment que l'issue sera positive, surtout pour Thomas, surtout avant tout, parce que c'est à lui qu'on pense, et c'est pour lui que vous vous battez dans son intérêt, et c'est ça qui est extraordinaire chez vous. Vraiment.
Je me posais, oui, je sais, mais je me posais la question, il a 13 ans et demi, et je me dis, sa parole, elle, qu'est-ce qu'elle vaut ? Est-ce que ça prime sur le reste ? Est-ce qu'il va être entendu ? Ou est-ce qu'on va lui dire, toi, mon petit garçon, t'as pas le choix, tu montes dans la voiture de ton papa, parce qu'on m'a dit que ça avait un effet immédiat, donc le jour de l'audience. Enfin, il part pas tout de suite, mais l'avocate tantôt m'a dit oui, c'est un effet immédiat, on va peut-être vous laisser 24 heures, mais il partira le lendemain. C'est quand même violent. Hein.
Oui, certainement.
Mais voilà, sa parole, est-ce qu'elle prime si vraiment, avec force, il conteste la décision et qu'il dit qu'il doit voir l'éducatrice là cette semaine, et s'il conteste avec force les conclusions Est-ce qu'il va être entendu ? Est-ce que ça a du poids ? Est-ce que moi, ce que j'ai proposé, moi, parce que je ne suis pas sans rien faire, puisqu'on veut l'éloigner de chez moi, parce qu'a priori, on dit que la relation, le cadre n'est pas assez posé, que je suis débordée, ou en tout cas, et je dis, c'est vrai que des fois, je dis que je suis fatiguée, mais je l'ai tout le temps. Il n'y a jamais de relais. Mais a priori, il ne faut pas que j'aille sur ce sujet-là, parce que Moi, j'ai un collègue qui m'a dit, Céline, tu dis souvent ça, peut-être que ça leur plaît pas, parce que je lui ai fait part de ce que je vivais. Et il m'a dit, fais attention, peut-être qu'ils ont senti, oui, j'ai 48 ans, oui, j'ai des problèmes de petits problèmes de santé, mais voilà. Le fait de dire qu'on est essoufflé, qu'on n'a jamais de relais, c'est un constat, c'est la réalité. J'aimerais avoir un oui. Quand vous dites, vous êtes investi, vous êtes que pour votre fils, mais je souffle pas trop non plus. Il reste pas trop de temps non plus, perso, pour soi.
Et vous pensez que cette décision, ce serait une façon de dire, maintenant, il a un père, il serait temps que...
Alors, je pense que oui, peut-être qu'ils veulent investir le papa de... Mais j'y crois pas du tout, en tout cas, dans l'investissement du papa. Mais après, j'ai le droit de me tromper, il a le droit de changer aussi. Mais moi, c'est pas ce que je souhaite, bien évidemment.
Alors, on vient de recevoir un SMS de Véronique qui dit « J'ai écrit au président Macron, je pensais jeter une bouteille à la mer. Il s'est occupé de mon dossier. Eh bien, faites-le. »
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc, ça me donne de l'espoir.
Tout à fait. Il y a vraiment entre Caroline, Caro, je ne sais pas, c'est peut-être Carole qui souhaite vous parler de son expérience également. Vous avez tout notre soutien, même nous ici, l'équipe, je vous assure. Ils étaient extrêmement sensibles à votre histoire. Là, on est resté une heure et demie. C'est du jamais vu, je crois, au sein de la Libre Antenne.
Ah oui.
Là, vraiment, c'est une émission qui vous est totalement dédiée, ma chère Sabine. On a vraiment à cœur que l'issue...
Moi, c'est viscéral. Enfin, ça me sort des tripes. Enfin, c'est une maman qui parle. Enfin, je pense qu'il y a des papas qui sont investis autant que moi. Je ne parle pas pour... c'est pas du féminisme ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment... mon cœur de maman qui parle, ce sentiment aussi d'injustice et un combat que je ne veux pas lâcher parce que je sais, quand c'est injuste, je ne sais pas faire, j'y arrive pas. Je ne peux pas abandonner, c'est pas possible. Et je me suis toujours battue, j'étais enceinte, j'ai subi de la violence physique. Je me suis battue, j'ai failli avorter, j'ai fait le choix de garder Thomas et je savais que j'allais en baver derrière. Mais mes gamins, c'est ma raison de vivre, c'est tout quoi.
Bon, courage, vraiment courage, continuez à vous battre comme ça, Sabine, même si il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Mais en tout cas, vraiment, s'il y a un sujet, un point sur lequel vous pouvez vraiment être fière, c'est le fait de rien lâcher, qu'à ce jour, vraiment, et on est tous d'accord pour dire que vous faites tout ce que vous pouvez dans l'amour d'une mère, cet amour vraiment indéfectible que vous transmettez à Thomas au quotidien, que Mathieu a pu d'ailleurs bénéficier. Et c'est super qu'il vienne vous revoir pour pouvoir vous soutenir parce que vous en avez vraiment besoin. En tout cas, on est tout cœur avec vous. On espère que l'issue ce 26 août sera positif. Et surtout, tenez-nous au courant. Donc surtout, ne raccrochez pas parce qu'on a plein de messages et de numéros de téléphone à vous transmettre.
Et je remercie de tout cœur tous les gens qui ont appelé, tous les gens qui m'ont écouté.
Merci à eux, oui, tout à fait.
Voilà. Je suis désolée aussi pour l'émotion, le côté un peu pleurnichard, mais
non,
voilà.
Non, ne vous excusez pas.
Cœur du maman qui parle.
Absolument.
Voilà.
Je vous embrasse
merci
très Sana. Fort,
merci
Sabine.
Pour tous vos conseils, merci pour votre écoute et votre empathie. Merci.
Au revoir.
Au revoir.